Les rencontres d'Edmond Morel.
Michel Halberstadt, vous publiez chez Albin Michel un roman intitulé « Un écart de conduite ». Alors, d'abord, quelques mots sur vous. On sait que vous êtes productrice et romancière depuis trois romans. Alors, quelle est la différence entre les deux métiers, dans le fond, si ce n'est que, point commun, c'est raconter des histoires?
Alors, il n'y a pas trois romans, mais quatre romans et un journal. voilà, le seul point commun, c'est de raconter des histoires. Et ce qui change, c'est le point de vue. Parce que quand vous faites un film, vous êtes extérieur à l'histoire, vous vous mettez dans tous les personnages. Et moi, j'aime bien faire des livres dans lesquels je rentre dans la tête de mon personnage principal. Et puis surtout, quand vous produisez un film, vous fédérez beaucoup d'énergie et beaucoup de talent. Et quand vous écrivez, c'est la totale liberté. C'est vraiment un ring sur lequel vous êtes face à face avec vous-même.
Vos romans sont des romans qui sont très, très imagés, très cinématographiques. On dirait qu'ils ont été écrits comme s'ils étaient prêts à être adaptés au cinéma. Or, ça n'a jamais été le cas, que je sache.
Ça n'a jamais été le cas et ce n'était pas du tout mon souci. Mais c'est vrai que j'ai commencé par écrire pour une émission de radio. Et quand on écrit pour la radio, on écrit en images. Donc fatalement, là-dessus, j'écris beaucoup pour le cinéma. Parce que soit je co-signe les scénarios des films qu'on produit, soit j'y travaille en tout cas de près. Et ça donne le goût de l'ellipse. Et puis, je crois aussi qu'en tant qu'auteur, on fait les livres qu'on aime lire en tant que lecteur. Je pense qu'il n'y a pas de... Quand on écrit, c'est parce qu'on aime lire. Et moi, j'aime lire les livres qui me montrent les choses, qui me les font sentir, qui éveillent tous mes sens. J'aime pas m'ennuyer, j'aime pas les livres abstraits, où j'ai l'impression de tourner une page, je me dis, bon, ok, et alors, qu'est-ce qu'il veut me dire? Voilà. Donc j'ai tellement peur que mon lecteur s'ennuie, que j'essaie de lui donner de quoi voir, de quoi sentir, de quoi entendre. Comme ça, il tourne les pages sans s'en rendre compte. Mais moi, j'espère.
On va parler de votre roman, mais avant, racontez-nous un peu cet épisode de votre carrière où vous écriviez pour la radio.
Ah, c'était juste après mes études. Je sortais de mes études, mais pendant... En fait, j'ai fait ma maîtrise de droit et avant d'entrer à Sciences Po, j'ai travaillé à Europe 1 pendant trois mois. Et quand je suis rentrée à Sciences Po, Étienne Moujotte, qui était le patron de la rédaction à l'époque, m'a dit « Tu reviens quand tu as fini ». Donc je suis revenue, frappée à sa porte. Et il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Et j'ai dit « Mais je n'ai pas envie de choisir entre les programmes et le journalisme. J'aime les deux. » Et il m'a dit « Il y a une émission toute faite pour toi qui s'appelle « Histoire d'un jour » de Philippe Alfonsi. » Donc je suis allée voir Philippe Alfonsi qui m'a dit « Est-ce que vous savez écrire ?» Je lui ai dit « Écoutez, je crois. » Il m'a dit « Mais est-ce que vous savez écrire pour la radio ? C'est pas pareil. » Et j'ai dit « Ah bon, comment je sais ?» Mais il m'a dit « Vous allez, voilà. Vous allez me raconter telle histoire, vous allez l'écrire. Et n'oubliez pas que c'est à la radio, on ne peut pas relire, donc il faut parler en images. Voilà. » Et c'est vraiment lui qui m'a appris à écrire. Et mon écriture en a toujours été affectée, évidemment.
Parce que les histoires d'un jour de Philippe Alfonsi, c'était quoi? C'était 20 minutes, un quart d'heure?
Non, ça durait une heure. Ah, ouais. Ça durait une heure dans laquelle on faisait intervenir des documents sonores. Voilà. Et alors, c'était découpé en trois parties. Il y avait trois écrans de pub, donc il fallait résumer la partie d'avant après l'écran de pub. Enfin, il y avait comme des règles, des contraintes assez précises. Et j'ai eu un moment d'épiphanie inoubliable parce que donc, j'écris ma première histoire et il me dit « T'as qu'à la lire à haute voix et tu te rendras vite compte si on voit quelque chose ou non ». Et donc, c'était l'histoire d'un divorce et je démarrais par une dame qui attendait un coup de fil. Et je disais, le bureau est vide, les secrétaires sont partis déjeuner. Je lis ça à haute voix, je me dis, je ne vois pas le bureau, hein, ça ne marche pas du tout pour moi. Ça m'a mis deux heures, mais ça a été une leçon de vie. J'ai mis les housses sont posées sur les machines à écrire. Voilà.
Là, ça parle.
D'un seul coup, ça parle. Et ça a changé mon écriture, vraiment. Un an à ce régime, je vous jure que vous écrivez en images.
Alors, on va entrer dans votre roman, Un écart de conduite. Alors, c'est un roman qui fait réfléchir tout d'abord sur la justice. Alors, l'histoire en... Pour faire le pitch, vous faites le pitch comme...
Allez, je vous fais le pitch. Une jeune fille de 19 ans, en rupture de famille, devient serveuse sur un bar de plage. Elle sort avec le patron. Le patron, la nuit, transporte des boîtes de morphine dans son coffre. Elle pense que c'est pas bien grave parce que sa mère en a pris pour soigner ses douleurs car elle est morte d'un cancer récemment. Donc elle a l'impression qu'elle fait plutôt du bien qu'autre chose. Et puis un soir, c'est elle qui conduit la voiture. Elle se fait prendre. Prison.
Alors prison, on entre dans la prison. Et c'est là où on retrouve votre talent incroyable de romancière qui est de faire vivre... par la littérature, encore davantage, ce qu'est par exemple le premier matin à la prison. C'est quelque chose d'inouï, parce que beaucoup plus qu'au cinéma, parce que vous faites des allusions à la manière dont le personnage fantasme...
L'ellipse du cinéma.
Voilà, oui. Au cinéma, la prison, on fait des études. Tandis que là, c'est le pain mou, c'est le froid, c'est la solitude.
Oui, moi, quand vous écrivez, il arrive un moment où fatalement vous êtes devant votre ordinateur et vous vous dites, bon, alors voilà, là, je suis en prison. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Je suis pas allée me promener dans les prisons. D'abord, j'aurais eu honte de faire ça, d'aller voler quelque chose. Peut-être que maintenant, avec le livre, je vais pouvoir aller en prison, ce que j'aimerais beaucoup. Mais j'ai quelque chose à leur donner, à leur apporter. Je suis pas allée en prison voler des sensations. Mais voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas mal lu de courriers de gens en prison. Et puis après, vous faites travailler vos sens. Voilà, vous êtes devant votre machine à écrire vraiment et vous vous dites, bon, c'est quoi être en prison? Qu'est-ce que je ressens? Eh bien, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'entends? Comment va ma peau? Comment bat mon cœur? Est-ce que je respire? Voilà, c'est tout.
Le roman, ce sont aussi des personnages. Alors, le personnage central, c'est Laure, cette jeune fille de 19 ans qui part d'une certaine manière dans la détresse d'avoir perdu sa mère et de n'avoir aucun contact avec un père à l'égard duquel elle n'éprouve pas de sentiments. Et il y a ce personnage du grand-père.
Il y a aussi les frères, et là, je vois une petite parenthèse. Il y a souvent les héroïnes dans les romans sont jolies. La mienne, elle est jolie, c'est pas un hasard, c'est parce que je vois les copines de ma fille. C'est beaucoup ma fille qui a inspiré ce livre, parce qu'elle a eu 18 ans il n'y a pas si longtemps. On se fait des soucis, mais j'ai beaucoup regardé les adolescentes. Et il y avait comme ça dans le groupe une fille ravissante, blonde, jolie, avec un beau sourire. Vous vous disiez, mais toutes les fées sont penchées sur le berceau de cette fille. Elle est ravissante, elle est charmante, elle est spontanée, elle sourit à tout le monde, la vie lui sourit. Et bien, 10 ans plus tard, c'est celle qui est allée droit dans le mur. Parce que, à force d'imaginer que la vie vous donne tout, tout est trop facile et du coup, rien n'est à conquérir. Et voilà, et c'est souvent le problème. Et elle, mon héroïne, elle a des frères qui ont fait de longues études, qui sont ingénieurs, qui ont du mal à gagner leur vie. Elle est blonde, elle est mannequin cabine, elle gagne plus qu'eux, elle n'a pas fait d'études, elle n'a même pas son bac. C'est insupportable. Et donc, elle est rejetée aussi à cause de ça. La beauté, ça peut aussi isoler les gens, je crois.
Elle est aussi une fille qui est fondamentalement innocente, parce que lorsqu'elle est arrêtée, lorsqu'on la met en prison, en garde à vue d'abord, et lorsque la perspective d'être emprisonnée pendant 6 ans, qui est la condamnation, elle ne comprend pas, parce qu'elle ne perçoit pas d'avoir commis une faute.
Non, parce que dans sa tête, elle n'est pas en tort. Elle a juste conduit une voiture. Bon, il y avait de la morphine dedans, mais ça soulageait des vieux monsieur malades comme était sa mère, donc... Qu'est-ce que ça peut faire? Pourquoi elle ira en prison pour ça? Elle ne comprend pas. Il faudra qu'elle mesure à quel point sa détention met en danger la vie de son grand-père pour qu'elle s'oblige à mûrir, à changer, à réfléchir sur les conséquences de ses actes.
Et alors là, vous avez une très belle image qui est celle, elle prend un dictionnaire en se disant, je vais me transformer aux yeux de mon grand-père, je vais apprendre. Et elle se force à apprendre 10 mots par jour. C'est une trouvaille extraordinaire, ça.
Et à faire de la gym.
Gym, ça m'a impressionné, moi. Mais le dictionnaire, ça, c'était une vraie trouvaille.
Quand vous êtes en prison, que vous n'avez pas fait d'études, voilà. Moi, j'ai toujours dit que... je sais pas, un dictionnaire, il y a tout. Il y en a pour qui c'est la Bible, moi, c'est le dictionnaire. Vous imaginez, c'est inépuisable, le dictionnaire. Moi, j'adore les dictionnaires. De toute façon, on ne peut pas faire de livre sans dictionnaire. J'en ai une pile, analogique, les synonymes, la grammaire. Ah oui, non, mais moi, j'adore ça. C'est un labyrinthe, un de mes labyrinthes préférés, les dictionnaires.
Mais je trouvais que c'était une très belle manière de présenter ce personnage, de se dire, je dois protéger mon grand-père de ce qui m'arrive à moi, et pour ça, je vais me transformer. Je trouve qu'il y avait là...
Elle va vers lui, absolument. Parce que je pense aussi que vous ne changez pas pour vous-même. Il faut quelque chose qui vous motive, et si ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Et elle se sent charge d'âme de son grand-père. Il y a ce lien entre eux, lui veut tout faire pour la sauver, et elle veut tout faire pour qu'il reste en vie. Donc elle se dit, il a la culture que je n'ai pas. Donc c'est faire un pas vers lui que d'apprendre les mots, à la racine.
Alors, l'incident de l'arrestation et de la voiture qui transportait de la morphine se déroule en 1974, mm-hmm. 74, comme vous dites. Et la suite du récit, si on peut la raconter... Elle s'évade, on ne va pas raconter comment, et elle prend une autre identité. Et là, votre roman, qui est une réflexion sur la justice ou l'incompréhension de la justice, devient une réflexion sur l'identité.
Absolument. Elle prend, encore une fois, toujours sur cette idée que ce qui l'a fait vivre, ce n'est pas elle, c'est quelque chose d'extérieur à elle qui la motive. Quand elle part refaire sa vie, elle croit qu'elle peut faire confiance à un homme et elle se trompe. Et je pense qu'à partir de là, elle irait dans le mur s'il n'y avait pas d'un seul coup la découverte qu'elle porte le nom de quelqu'un à qui dont on a volé la vie. Et d'un seul coup, elle se sent responsable de cette vie. Voilà, elle porte le nom d'une fille qu'on a kidnappée, qu'on n'a jamais retrouvée. Et donc, d'un seul coup, voilà, il faut qu'elle ait une belle vie pour cette fille-là. C'est pas pour elle. C'est jamais pour elle. Quand c'est pas pour son grand-père, c'est pour cette fille. À porter le nom de quelqu'un qui a disparu, c'est pas rien. Ça aurait pu la braquer, la bloquer. Elle aurait pu vivre ça comme une malédiction. Et bizarrement, c'est ce qui va la libérer.
J'ai eu le sentiment, en lisant votre roman, qu'il était, l'ensemble du roman était une parabole de ce qu'est le romanesque. On invente des personnages, on leur donne une identité, ils doivent l'incarner, ils doivent l'habiter, mais ils vivent en permanence dans le mensonge qui engendre la vérité.
Absolument, c'est tout à fait ça. Mais pour moi, c'est presque une fable, ce roman. Une fable sur l'identité, une fable sur la justice, parce que, voilà... 74, c'est l'année où elle est arrêtée, c'est l'année où la majorité passe à 18 ans en France. Avant, elle était à 21 ans. Est-ce que vraiment cette fille est majeure alors qu'elle a 19 ans et qu'elle est à peine sortie de l'enfance? Est-ce qu'à 18 ans aujourd'hui, on est majeur? C'est une époque où les lois ont changé très vite en France. Le trafic de drogue en 70 et le trafic de drogue aujourd'hui n'est pas payé pareil. Ça dépend de la drogue, ça dépend du trafic. Enfin, toutes ces choses-là sont fluctuantes et tout dépend dans quel moment vous êtes pris. Et puis, il y a le facteur humain qui fait que la justice ne penche pas toujours de la même manière. On fait parler les textes aussi. Donc, tout ça fait qu'il n'y a pas une justice, il y a des justices. Et puis, il y a surtout la prison dans laquelle on s'enferme soi-même.
La dimension humaine de la justice, là, vous l'avez incarnée dans ce personnage de directeur de prison.
Il y a le juge et le directeur de prison, oui. Voilà. Elle a une malchance et une bonne chance, voilà.
Voilà, c'est un peu un double
équilibre à moi. Voilà, c'est ma balance de justice à moi. Voilà, il y en a un qui a fait pencher du bon côté et l'autre du mauvais.
C'est un très beau personnage, ce personnage de directeur de prison. Il est venu comment? Comment vient un personnage comme ça?
Écoutez, il est venu naturellement dans la prison. Et ce qui n'était pas du tout prévu, c'était la fin. C'est-à-dire que je savais qu'elle se ferait rattraper, mais je ne savais pas comment et je ne savais pas quelles conséquences cela aurait pour elle. Et je n'arrivais pas à me décider. Je me disais, bon, ben, on verra bien. Et vous savez, on dit toujours, oui, les personnages ont pris le pouvoir. Ça m'a toujours exaspéré, cette phrase. On se dit, enfin, vous êtes gentil, c'est quand même vous qui les écrivez. Le côté, les personnages prennent le pouvoir, il ne faut pas charrier. Ben, maintenant, j'ai compris ce que ça voulait dire. Ce n'est pas qu'ils prennent le pouvoir, c'est qu'insidieusement, ils font leur travail en vous. Et un matin, je me suis réveillée, je savais comment ça allait se terminer. Voilà. Je suis allée exhumer ce directeur de prison que je n'avais pas prévu de retrouver.
Mais vous saviez dès le départ qu'elle allait être rattrapée.
Voilà, ça, je ne savais pas ni comment, ni par qui, ni avec quelles conséquences. Mais le but, c'était qu'elle soit rattrapée, bien sûr.
Vous dites à un moment donné, dans la partie du récit qui se déroule dans la première des prisons, enfin dans la seule prison dans laquelle elle est allée, en garde à vue, avec ses compagnes, il y a toute une série d'amis. Le directeur de prison lui propose d'avoir une activité manuelle, le tissage, comme ça elle occupe l'esprit. Il y a une très belle solidarité entre femmes de prisonnières qui se racontent des histoires. Et vous dites, la véracité des histoires a peu d'importance. Là aussi, on retrouve finalement, on se raconte une histoire pour
bien
vivre.
Sûr, bien sûr. Il y a tellement peu d'avenir en prison. Qu'est-ce qui vous fait vivre? C'est voilà. Il était une fois. L'Emkon de mille et une nuits, c'est ce qui a sauvé Scheherazade, et c'est aussi ce qui sauve ses Fatma. C'est la seule chose qui marche, c'est les histoires. Vous savez bien, on vous dit il était une fois, déjà vous tendez l'oreille. Donc elles se racontent, elles se réinventent leur vie. Peut-être qu'elles y croient elles-mêmes. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour supporter un jour de plus en prison?
Michel Albersat, je vais terminer cette interview en vous posant la question que je pose à tous les écrivains que je rencontre en 2010, année du 50e anniversaire de la mort d'Albert Camus qu'on commémore. J'aurais voulu savoir quelle était pour vous votre première rencontre avec Camus, avec un texte de Camus ou avec une pièce de Camus.
Et c'était La Peste, lue à l'école.
Mais encore.
Mais alors je l'ai lue à l'école, ça m'a paru intéressant, fort, mais je n'ai pas vraiment compris. Et puis, je sais pas, 5-6 années plus tard, j'ai lu L'Étranger. Là, ça a été un éblouissement. Et là, je suis revenue à La Peste. Et après, quand mon fils, qui est maintenant en hippocagne, a voulu lire Camus à l'âge de 15 ans, j'ai dit ah non, surtout pas. Il me dit, mais quoi, je suis assez grand. J'ai dit, mais t'es assez grand, mais t'es pas assez mûr. Ne fais pas la même bêtise que moi. Et j'ai appris, ça m'a appris une chose, Camus, c'est qu'il y a un âge pour les choses. Voilà. Et quand on est trop vert, on ne comprend, on peut pas profiter pleinement de ces écrits-là. Il y a des écrits où il vaut mieux attendre un petit peu. Et si on les a lus trop tôt, faut pas dire oui, je l'ai déjà lu. Faut y revenir. Je pense que vraiment, c'est pour ça qu'on relit les classiques toujours et au fil des années de la vie, c'est parce qu'on n'a jamais le même regard dessus. Et moi, c'est Camus qui m'a appris ça.
Michel Halberstadt, je vous remercie et pour l'interview et pour Un écart de conduite, qui est le titre du roman que vous publiez chez Albin Michel et qui est un roman à lire, toutes affaires cessantes.
Merci.
Les rencontres d'Edmond Morel.